Aristote, Métaphysique, livre 3, chapitre 3. Que faut-il décider sur tous ces points pour arriver ensuite à la vérité? Il y a là des difficultés nombreuses. Les difficultés relatives aux principes ne le sont pas moins. Faut-il regarder les genres comme éléments et principes? Ou bien, ce titre n'appartient-il pas plutôt aux parties constitutives de chaque être? Par exemple, les éléments, les principes du mot, paraissent être les lettres qui concourent à la formation de tous les mots, et non pas le mot en général. De même encore, nous appelons éléments, dans la démonstration des propriétés des figures géométriques, ces démonstrations qui se trouvent au fond des autres, soit dans toutes, soit dans la plupart. De même, enfin, pour les corps, et ceux qui n'admettent qu'un élément, et ceux qui en admettent plusieurs, regardent comme principe ce dont le corps est composé, ce dont l'ensemble le constitue. Ainsi, l'eau, le feu et les autres éléments sont, pour Empédocle, les éléments constitutifs des êtres, et non point des genres qui comprennent ces êtres. En outre, si l'on veut étudier la nature d'un objet quelconque, d'un lit par exemple, on cherche de quelle pièce il est composé, quel est l'arrangement de ces pièces, et alors on connaît sa nature. D'après ces considérations, les genres ne seraient pas les principes des êtres. Mais si l'on songe que nous ne connaissons rien que par des définitions, et que les genres sont les principes des définitions, il faut bien aussi que les genres soient les principes des êtres définis. D'ailleurs, s'il est vrai de dire que c'est acquérir la connaissance des êtres que d'acquérir celle des espèces auxquelles les êtres se rapportent, les genres seront encore principes des êtres puisqu'ils sont les principes des espèces. Quelques-uns même de ceux qui regardent comme éléments des êtres l'unité ou l'être, ou le grand et le petit, semblent en faire des genres. Toutefois, les principes des êtres ne peuvent pas être en même temps les genres et les éléments constitutifs. Les sens ne comportent pas deux définitions. Or, autre serait la définition des principes considérés comme genre, autre si on les considérait comme éléments constitutifs. D'ailleurs, si ce sont surtout les genres qui sont principes, faut-il regarder comme principes les genres les plus élevés, ou ceux immédiatement supérieurs aux individus? C'est là encore un sujet d'embarras. Si les principes sont ce qu'il y a de plus général. Évidemment, les genres les plus élevés seront principes, car ils embrassent tous les êtres. On admettra par conséquent comme principes des êtres les premiers des genres. Et alors, l'être, l'unité, seront principes et substances, car ce sont surtout ces genres qui embrassent tous les êtres. D'un autre côté, tous les êtres ne peuvent pas être rapportés à un seul genre, soit à l'unité, soit à l'être. Il faut nécessairement que les différences de chaque genre soient, et que chacune de ces différences soit une. Or, il est impossible que ce qui désigne les espèces du genre désigne aussi les différences propres. Il est impossible que le genre existe sans ses espèces. Si donc l'unité ou l'être est le genre, il n'y aura pas de différence qui soit ni qui soit une. L'unité et l'être ne sont donc pas des genres, et par conséquent, ils ne sont pas des principes, puisque ce sont les genres qui sont principes. Ajoutez à cela que les êtres intermédiaires pris avec leurs différences seront des genres jusqu'à ce qu'on arrive à l'individu. Or, les uns sont, il est vrai, des genres, mais d'autres n'en sont pas. En outre, les différences sont plutôt principes que les genres. Mais si les différences sont principes, il y a, en quelque sorte, une infinité de principes, surtout si l'on prend pour point de départ le genre le plus élevé. Remarquons d'ailleurs que, bien que l'unité nous paraisse surtout avoir le caractère de principe, l'unité étant indivisible, et ce qui est indivisible l'étant ou bien sous le rapport de la quantité ou bien sous celui de l'espèce, et ce qui l'est sous le rapport de l'espèce ayant l'antériorité, enfin, les genres se divisant en espèces, l'unité doit être plutôt l'individu. L'homme, en effet, n'est pas le genre des hommes particuliers. D'ailleurs, il n'est pas possible, dans les choses où il y a antériorité et postériorité, qu'il y ait en dehors d'elles quelque chose qui soit leur genre. La diade, par exemple, est le premier des nombres. Il n'y a donc point, en dehors des diverses espèces de nombres, un autre nombre qui soit le genre commun. Il n'y a point non plus dans la géométrie une autre figure en dehors des diverses espèces de figures. Et s'il n'y a point ici de genre en dehors des espèces, à plus forte raison, n'y en aura-t-il point dans les autres choses, car c'est surtout pour les êtres mathématiques qu'il paraît y avoir des genres. Pour les individus, il n'y a ni priorité, ni postériorité. Et de plus, partout où il y a mieux et pire, le mieux a priorité. Il n'y a donc pas de genre, principe des individus. D'après ce qui précède, les individus doivent plutôt être regardés comme les principes des genres. Mais d'un autre côté, comment concevoir que les individus soient principes? Il ne serait point facile de le démontrer. Il faut qu'alors la cause, le principe, soit en dehors des choses dont elle est le principe, qu'elle puisse en être séparée. Mais quelle raison a-t-on de supposer qu'il y a un principe de ce genre en dehors du particulier, si ce n'est que ce principe est quelque chose d'universel et qu'il embrasse tous les êtres? Or, si l'on se rend à cette considération, ce qu'il y a de plus général doit être plutôt regardé comme principe, et alors les principes seraient les genres les plus élevés.